France Inter.
Aujourd'hui, la ville du quart d'heure, ou comment retrouver du temps utile, raconté par...
Carlos Morulon, professeur à l'IAE Paris-Sorbonne et membre LU de l'Académie de technologie en France.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Au début des années 1930, les villes européennes restent marquées par les héritages du 19e siècle. Habitat dégradé, congestion, insalubrité. Les SIAM, les congrès internationaux d'architecture moderne, tentent d'y répondre en repensant la ville industrielle. Et en juillet 1933, leurs membres embarquent à Marseille sur le paquebot Patrice II pour rejoindre Athènes, transformant la traversée en atelier de travail. On y compare les enquêtes menées sur 33 villes européennes et l'on cherche un langage commun. Au centre des débats se trouve Le Corbusier, dont l'influence est déterminante. Ses recherches sur l'hygiénisme, l'orientation des bâtiments et la rationalisation des plans urbains structurent une grande partie des discussions et peu à peu, une idée s'impose. La ville doit être organisée autour de quatre fonctions essentielles. Habiter, travailler, se recréer et circuler. Mais aussi garantir de la lumière, de l'air et des espaces verts. Arrivés à Athènes, les délégués rédigent un texte synthétique qui restera d'abord interne. Durant la guerre, Le Corbusier le reprend, le réorganise et publie en 1943, une version personnelle. C'est cette version diffusée en 1957 sous le nom de Charte d'Athènes qui marquera profondément l'urbanisme d'après-guerre. Les grands ensembles, les villes nouvelles et la séparation stricte des fonctions urbaines en porteront la trace. Mais cet héritage se révélera ambivalent en appliquant les principes de manière rigide. De nombreux projets ont produit des quartiers trop fonctionnels, dépendants de la voiture, pauvres en mixité sociale et perçus comme déshumanisés. C'est précisément à cette histoire que vient répondre plusieurs des plus tard, le concept de ville du quart d'heure. Là où la charte d'Athènes séparait les fonctions pour améliorer l'hygiène, la ville du quart d'heure, elle cherche au contraire à les rapprocher, ramener le travail, les commerces, les écoles, les soins et les loisirs à moins de 15 minutes de chaque habitant, à pied ou à vélo. Ainsi, l'histoire de la charte d'Athènes et l'émergence de la ville du quart d'heure dessinent deux visions opposées de la ville, l'une fondée sur la séparation rationnelle des activités, l'autre sur la recomposition locale des services pour renouer avec la complexité et la vitalité des quartiers. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
J'ai situé les fonctions de la ville. Les fonctions, c'est habiter, travailler, cultiver le corps et l'esprit. Eh bien, habiter, c'est la première chose. J'ai essayé de montrer comment on pouvait faire des quartiers d'habitation. Et ensuite, j'ai créé les unités de Marseille, qui m'ont valu 5 années d'insultes abominables. Vous savez, quand la catastrophe est faite, il faut chercher le déblayeur. Hein. Ça prend, et en urbaniste, quand on a fait des bêtises, ça dure 100 ans. Hein.
Bonjour Carlos Moreno.
Bonjour Mathieu Vidard.
La voix à l'instant de l'architecte et urbaniste Le Corbusier en 1962, archive de l'INA. Vous qui publiez aux éditions Erol, La ville du quart d'heure, une solution pour préserver notre temps et notre planète. Est-ce que Le Corbusier a fait beaucoup de bêtises selon vous ?
Oui, Le Corbusier, c'est un personnage qui a marqué l'histoire de l'architecture, au-delà de l'urbanisme et au-delà des villes. Et donc, nous tous, sur toute cette planète, vivons dans cet héritage du fonctionnalisme. Il faut le situer dans un contexte, parce qu'on ne peut pas diaboliser quelqu'un en permanence. Vous l'avez dit dans votre brillant résumé, il a quand même porté l'hygiénisme. Il faut rappeler qu'on avait en France encore des bidonvilles à l'époque, hein, ce qui aujourd'hui est Nanterre, hein, la Défense. Il y avait un des plus grands bidonvilles qui a été éradiqué. La question également de l'air. Hein, il faut savoir qu'il y avait énormément de maladies qui étaient colportées. Et il y avait cette difficulté à trouver tout simplement des endroits pour vivre. Je dirais qu'à cette époque-là, il y a eu une approche de logement qui a été ramené vers l'habitat avec cette idée fonctionnelle qu'il fallait permettre à l'esprit, le Corbusier le disait un instant, se concentrer sans être perturbé. Mmh. Et donc, pour ne pas être perturbé, les lieux pour travailler, c'était uniquement pour travailler, pour habiter, uniquement pour se loger, pour s'amuser, et les lieux culturels. C'était cette idée comme quoi la concentration de l'esprit est indispensable pour produire des bonnes choses. Et la résultante a été, par les fonctionnalismes, la ségrégation urbaine, la création de lieux disjoints, et donc, pour passer d'une concentration à une autre concentration d'une activité, c'est devenu le royaume des autoroutes, des routes, des voitures.
La voiture reine,
et nous sommes devenus dépendants de la voiture et de tout ce que ça a amené comme dégradation de la qualité des vies.
Donc il a raison quand on dit quand on le paye pendant 100 ans, on y est encore au fond. Hein.
Je pense qu'on est encore pour un bon bout de temps quand on voit la planète urbaine dans sa totalité, c'est-à-dire plus de 52% de la planète aujourd'hui est urbaine, 77% en Europe, 86% en Amérique du Nord, 84% en Amérique latine, plus de 50% aujourd'hui en Afrique. Toute la planète a vécu pendant 9 décennies dans l'héritage fonctionnaliste de la Charte d'Athènes.
On va écouter un extrait de la chaîne YouTube du Grand Paris Aménagement sur la ville de Cergy-Pontoise et les villes nouvelles. Petit retour en arrière avec cette archive.
C'est une vie idyllique pour vous ?
Oh non, non. À Paris, c'était une prison. Ici, c'est une prison dorée.
Vu le manque d'emploi ici, je suis donc obligée d'aller à Paris, ce qui me fait beaucoup de trajets.
1h30 le matin, 1h30 le soir. Oui. Et le retour ?
Autant ? Pareil, 1h15.
3 heures par jour, quoi.
On a eu un écueil jusque dans les années 2000, c'est le zoning. C'est-à-dire de se dire, voilà, on va construire ici des logements de tel type, ici des équipements de tel type, ici une zone commerciale, une zone tertiaire. Et finalement, on a tout séparé. Et qu'est-ce qui a fait le lien entre tout ça ? C'est la voiture.
Carlos Moreno, voilà, vous qui décrivez la montée en puissance de l'automobile et de la naissance de l'Homo Sapiens, hein, c'est cet homme mi-homme, mi-voiture. Qu'est-ce que ça symbolise d'ailleurs pour vous, cette image ?
Ça symbolise ce qui est devenu le monde urbain partout dans le monde et qu'on voit tous les jours dans nos grandes villes, y compris en France. Cette dépendance de la voiture, elle est liée à une triple obésité, comme je l'ai décrit assez souvent. C'est-à-dire que nos villes sont devenues de plus en plus étalées. La ville se construit de plus en plus vers l'extérieur. Donc, c'est l'obésité des villes. On a également l'obésité des voitures, parce que des petites voitures, on est passé jusqu'aux grandes voitures, qui elles-mêmes sont devenues un symbole d'une position sociale. Plus grande est ma voiture, plus important suis-je. Un côté très masculin aussi, parce qu'il ne faut pas oublier les genres. La ville a été très genrée, en particulier côté masculin, avec la voiture. L'absence d'exercice aussi, la sédentarité qu'elle comporte, et qui se retrouve également dans l'obésité des personnes, puisque l'obésité également est une problématique urbaine. Le manque d'exercice physique lié à la malbouffe, la sédentarité et les poids de la voiture est important par rapport à cette obésité des personnes. J'appelle ça la triple obésité qui est très liée à la manière comme la ville a été organisée dans la suite de la Charte d'Athènes, la zonification, la segmentation et la fragmentation auquel nous avons été soumis comme mode de vie et qui a été, quelque part, introduit comme la normalité.
Carlos Moreno, cette ville du quart d'heure, donc c'est ce concept que vous avez imaginé. Comment il est né d'ailleurs dans votre esprit ? À quel moment ? Comment vous l'avez réfléchi au fond, en miroir aussi peut-être de cette charte d'Athènes dont on parlait tout à l'heure ?
Oui, absolument. Moi j'ai une origine scientifique qui est liée aux mathématiques et à l'informatique. Et j'ai eu à travailler sur les villes par le côté technologique de ce qu'on appelle la ville intelligente, le Smart City. Et j'ai développé également des plateformes numériques pour piloter des grandes infrastructures qui peuvent exister, les fluides. En 2010, je suis arrivé à la conclusion que la technologie ne pouvait être une fin en elle-même et qu'on ne pouvait pas transformer les villes par rapport à la technologie aussi puissante soit-elle.
Donc ça, c'est un aveu d'échec sur la ville intelligente ?
Ah, totalement.
Ouais.
Totalement.
Ça a été un flop, hein, on est d'accord.
C'était un flop total.
Ouais.
Il y a eu des investissements énormes, mais c'est devenu une source de business, on va le dire.
Mm-hmm.
Donc des grandes compagnies qui se sont mises à vendre de logiciels aux maires pour leur expliquer comment on devait gérer une ville.
Mais la greffe n'a pas pris.
Et ça n'a pas pris en 2010. Donc j'ai fait un pas sur le côté, parce qu'en 2010, j'ai considéré que dans la montée en puissance des maires qui s'est battue par rapport à la menace climatique, le maire de Londres à l'époque, Anne Hidalgo à Paris, les C40 qui a été créé pour fédérer les grandes villes pour lutter par rapport au climat. Et la question climatique était au cœur de nos préoccupations. Et si on regardait la question du climat à cette époque, en 2010, la conclusion est très simple, ce sont les villes les principales contributrices à l'émission de CO2. Par les poids de la voiture, par l'utilisation monofonctionnelle des bâtiments et par les réseaux de chaleur et froid. Et c'est là où j'ai évoqué le fait que si on voulait lutter de manière efficiente par rapport au changement climatique, il fallait à ce moment-là proposer dans les villes des alternatives au mode de vie sur les trois éléments. Donc diminuer l'empreinte de l'automobile et l'émission de CO2, plus de particules fines, c'est une question de santé urbaine. Deux, l'usage monofonctionnel des bâtiments et qui amène à une ville très étalée. Et trois, proposer d'autres manières de gérer comment nous nous déplaçons. Et c'est ça qui a été à l'origine de mes travaux en 2010 et lié à un certain nombre de lectures. Le professeur Mohamed Younous, quand il a écrit « Un monde de triple zéro, zéro carbone, zéro pauvreté, zéro exclusion », mais également Mathieu, peu de personnes le disent, en tout cas en France. Il faut savoir qu'en 1980, nous avons eu en Belgique ce qu'on appelle la déclaration de Bruxelles, qui était la anti-charte d'Athènes.
Oui.
Et donc j'étais inspiré.
Ça, c'est ça, votre concept s'inscrit dans ces courants-là. Hein,
absolument.
Entre autres.
Jane Jacobs, la déclaration de Bruxelles, mon ami et maître Jungel qui a écrit dans les années 2000. Et, en français, ça s'appelle la ville à l'échelle humaine, mais son nom, c'est City for People. Et donc, en fait, il faut le dire, Mathieu, que autant Le Corbusier a planté les décors des fonctionnalités du zoning, il y a toujours eu de la contestation face à ces modèles-là, avec beaucoup de propositions, les nouvelles urbanismes, des new urbanismes, des penseurs et des personnes engagées. Au cœur de cette galaxie, on trouve Jane Jacobs, Christopher Alexander, mais aussi des Européens, André Barret et d'autres, qui se sont battus et nous, on est dans cet héritage.
Est-ce que la définition la plus simple de la ville du quart d'heure, ce serait tout à 15 minutes de chez soi, ou est-ce que cette formule, elle n'est pas suffisante ?
Aujourd'hui, nous disons tout en courte distance de chez soi.
Mmh.
Les 15 minutes, je demande partout dans le monde où je suis invité à ne pas faire une fixation sur le nombre de minutes.
Oui.
On a, par exemple, à Melbourne, la ville des 20 minutes. On a également, en Espagne, le territoire des 30 minutes. On a une appellation qui est la ville de courte distance, les quartiers complets, et les quartiers de vitalité. Il y a plein de petits noms différents. Donc, le nombre de minutes n'est pas le centre de la question, bien que le concept est maintenant connu ainsi. La ville
c'est le slogan,
des quarts d'heure, voilà. Nous disons souvent la ville des X minutes, pour dire que X est un nombre qui doit nous ramener à une familiarité avec la courte distance, avec la proximité, que j'appelle la proximité heureuse.
C'est ça, ça revient souvent, ça, cette notion de proximité heureuse. Qu'est-ce qu'il a défini et qu'est-ce qui en fait une des conditions de la ville du quart d'heure, justement ?
Alors, la proximité heureuse, ça signifie que dans la ville, il ne s'agit pas de se loger. Se loger, pendant longtemps, a été le cœur de beaucoup de mouvements sociaux urbains, les droits au logement, c'est-à-dire avoir un toit. Moi, j'ai dit, et nous disons, avec ce mouvement qui est devenu aujourd'hui mondial, nous disons que se loger ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir un toit et quatre murs si on n'a pas des services de proximité qui dignifient la vie humaine. Et les succès de la ville des quarts d'heure, en fait, c'est parce que j'ai produit un modèle, qui est un modèle mathématiques, on appelle ça un modèle ontologique, un modèle des connaissances qu'il faut réunir, mmh. et dans lesquels on considère, à part le logement, cinq choses essentielles qui sont le commerce, la santé, l'éducation, le travail et l'épanouissement personnel. Et on appelle ça les six fonctions sociales. Le Corbusier en avait proposé quatre. Mmh. Moi, j'ai proposé six, mais en disant, à l'inverse de Le Corbusier, où les quatre elles sont éclatées, moi, j'en propose six qui doivent être mélangées en tout temps et en tout lieu, ce qui donne à la ville une morphologie qu'on dit polycentrique. Je reprends cette idée de Pascal dans les pensées quand il parlait des dieux, et il disait « Dieu est une sphère où les centres et partout à la circonférence nulle part ». Je ne parle pas des dieux, mais de la ville, parce que nous sommes devenus des urbains. Et j'ai dit, la ville, son centre est partout, et sa circonférence est nulle part. C'est-à-dire que partout, on doit avoir un accès aux services.
Donc c'est la proximité pour réduire les distances hein, qui est au cœur de tout ça, la densité, la mixité, l'ubiquité. On va en parler avec vous dans un instant. On va voir évidemment comment cette philosophie de la ville du quart d'heure se confronte aux enjeux contemporains avec la crise climatique et sociale. Et si elle est adaptable absolument partout, cette idée. Et puis vous répondrez aux messages et aux questions des auditeurs qui nous rejoignent. Carlos Moreno sur le site de la Terre au Carré sur France Inter. Et puis également pour vous entendre avec vos messages vocaux sur l'application Radio France.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Alors on a un projet qu'on a résumé à ce qu'on appelle la ville à 10 minutes. Donc c'est-à-dire qu'on se dit que les gens vont venir habiter en ville, et ça marche puisqu'on a un boom démographique à Bruxelles. La ville à 10 minutes, c'est quoi? C'est se dire que à côté de chez vous, vous devez avoir une crèche, une école, un centre sportif, un centre culturel, des magasins de proximité, un espace vert, des transports en commun. Si vous avez ça à 10 minutes à pied de chez vous, ou à un quart d'heure, eh bien, vous êtes équipé, vous limitez vos déplacements, vous avez une densité qui vous permet justement de vivre tout autour de chez vous, vous recréez une vie de quartier, et c'est ce que nous faisons à la ville de Bruxelles. Eh bien, les gens reviennent vivre en ville.
La voix de Philippe Claus, le maire de Bruxelles. Absolument. Sur Radio Arabelle. C'était en 2020. Carlos Moreno, vous qui publiez La ville du quart d'heure aux éditions Erol. On parle parfois de bruxellisation justement, puisqu'on est en Belgique. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue urbanistique?
Eh bien, il faut se remettre dans les années 80. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure la déclaration de Bruxelles, André Barret et d'autres collègues qui s'opposaient justement à la zonification de Le Corbusier. Le manifeste, il disait, il faut une ville dans laquelle on trouve beaucoup de services de proximité, dans laquelle il n'y a pas de zonification, dans laquelle il n'y a pas de barrière concernant ce qu'on a envie de faire, parce qu'on peut tout faire près de chez soi et dans lesquels on peut se déplacer facilement. Mmh. Et malheureusement, pour nous, Européens, cette déclaration de Bruxelles, il n'a pas pris. Je crois qu'il est même très méconnu et les textes sont même peu connus des urbanistes, des étudiants. Je les invite à les lire. Il y a un terme qui a pris la place, qui est le terme des bruxellisations.
Oui, c'est ça. Mais ça veut dire quoi?
Ça signifie quoi? Ça signifie que le quartier populaire, le quartier d'une densité à l'échelle humaine, peu à peu, ont été détruits. Pour faire quoi à la place? Pour construire des tours. Et des tours monofonctionnelles, mmh. et dans lesquelles on a installé surtout des lieux de travail, des tours corporate, comme on dit. Et Bruxelles, c'était le cas où les centres-villes étaient abandonnés parce que les gens n'habitaient plus dans les centres-villes. Ils sont allés vivre dans des maisons, dans des pavillons en dehors de Bruxelles.
Dans
et ils venaient travailler dans les tours.
Ouais.
Voilà. Et on s'est trouvé avec cette zonification qui va de pair avec la ségrégation urbaine. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que nos villes, y compris européennes, il y a une très forte ségrégation qui est basée sur l'argent par rapport aux endroits où on est installé et qui vous donne une catégorie sociale.
Justement, est-ce que ce projet, ce concept d'idée de ville du quart d'heure, il a une capacité à influencer le prix de l'immobilier, justement, ou pas?
C'est une très bonne question, parce que...
Ou est-ce que c'est impossible de lutter contre les entrepreneurs du BTP et...
On peut lutter, et c'est une très bonne question, et qui est au cœur aujourd'hui des pratiques qui sont aujourd'hui en place. On a écouté Philippe Claus, le maire de Bruxelles, qui développe, donc inspiré par mes travaux, il a dit, je le remercie, cette ville de proximité qu'il appelle la ville des 10 minutes à Bruxelles, mais une fois de plus, le nombre de minutes, ce n'est pas la question. Si cette politique est appliquée en tant que politique publique, C'est-à-dire que si on lutte contre la ségrégation, la segmentation et la gentrification, on peut faire de telle sorte que cette ville soit accessible par tout le monde. Quel est l'élément clé ? C'est le logement social. Il faut bien comprendre que nos villes européennes, la ségrégation qui existe et la gentrification est liée à la présence ou à l'absence du logement social. Quand on a un logement social partout dans la ville et non pas concentré dans quelques quartiers, à ce moment-là, les services qu'on va développer vont contribuer à une mixité qui peut alors éviter qu'on fasse la course à l'échalote des prix des mètres carrés. Mais Mathieu, prenons une carte rien qu'une d'une ville comme Paris. Dans les quartiers du nord-est de Paris, 19e, 20e, le taux de logement social supère les 40%, 42% jusqu'à 47%. Prenons un quartier de l'ouest de Paris, prenons le 7e arrondissement. Les logements sociaux des 7e arrondissement, c'est moins de 3%. Là, c'est la segmentation, la gentrification, uniquement...
Avec des prix au mètre carré qui sont stratosphériques hein, dans ces arrondissements-là.
Absolument. Et avec de l'usage à basse densité, parce qu'il y a des vastes appartements pour peu de personnes qui habitent, tandis que de l'autre côté, on a la concentration dans ce qu'on appelle les HLM, et donc c'est beaucoup des gens d'un peu de surface. Donc le logement social, et aujourd'hui il y a une crise de logement mondial et une crise de logement en Europe. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas une question d'avoir un toit et quatre fenêtres, il faut avoir des services partout où on habite, et il faut habiter partout dans la ville.
Carlos Moreno, en fait, les 10 ans de l'accord de Paris, la COP21 était importante également dans l'émergence de ce concept de la ville du quart d'heure. C'était un moment qui a fait basculer aussi un petit peu toutes ces idées.
Nous fêtons les 10 ans du concept de la ville des quarts d'heure.
Donc c'est vraiment intimement lié aussi au travail, à la réflexion autour de la question climatique.
Étroitement lié, puisque quand il y a eu la COP21, la maire de Paris, Anne Hidalgo, que je salue, à qui j'ai... reconnaît toujours son contribution extrêmement engagée pour ce concept de la proximité heureuse, a convoqué avec le C40 et Bloomberg Philanthropies une conférence qui s'appelait 1000 maires pour le climat. C'était la première fois où des maires étaient réunis pendant une COP qui est une discussion entre les États. Et c'est à ce moment-là que j'ai proposé ces concepts quelques mois après la COP21. J'ai dit, il faut un nouvel chrono-urbanisme pour vivre dans la ville. Et c'est là où j'ai proposé le concept de la ville des quarts d'heure dans une tribune que j'ai publiée dans un journal de l'époque.
2015, donc, la COP21 et 2020, le Covid-19. Qu'est-ce que ça a révélé sur nos villes, justement, aussi, toujours dans le cadre de cette réflexion autour de la ville hein.
Le Covid-19 a amené... trois choses majeures. La première, quand tous les gens étaient enfermés chez eux, tout le monde a découvert que la proximité pouvait être une manière de continuer à exister. La proximité déjà des familles, la proximité par rapport aux voisins, la proximité par rapport au commerce. Tout le monde a découvert que cette proximité pouvait adoucir et pouvait nous rendre une vie beaucoup plus heureuse. Deuxièmement, la plupart des gens ont découvert le travail à distance. Des mots comme Zoom, Teams, etc., qui aujourd'hui sont des choses courantes. À l'époque, les gens ont découvert. Et en une semaine, en 15 jours, la France entière est devenue adepte du télétravail. Donc, on pouvait montrer qu'on pouvait travailler autrement sans besoin d'aller au bureau tous les jours. Troisième chose, et la plus importante, on a découvert du temps utile. On a découvert du temps pour soi, pour sa famille, pour ses proches. Et cela a changé profondément et radicalement, non seulement notre rapport par rapport au travail, mais au-delà, l'essence même de la qualité de vie.
Vous avez un indicateur d'ailleurs, hein, c'est la haute qualité de vie sociétale. C'est le cœur un peu, on pourrait dire, opérationnel de votre démarche. Qu'est-ce que ça permet de mesurer précisément, alors ce HQVS ?
Exactement, traduit dans des multiples langues aujourd'hui, une bonne quinzaine. Ce concept traduit que la qualité des villes ne se mesure pas par rapport au PIB, par rapport aux indicateurs des croissances économiques, mais par rapport à ce qu'on appelle un équilibre d'une vie individuelle, familiale, des voisinages, des travails et collectifs. Donc on vient de mesurer quelle est notre accessibilité au logement, à la santé, à l'éducation, au commerce, et au loisir. Et on le rapproche de mon plaisir personnel et familial, de ma qualité de vie avec mes voisins et mes collègues de travail. Et tout simplement, on vient vivre avec des gens que je ne connais pas et que je croise dans la rue.
Mais cet indicateur, ça permet d'orienter les politiques publiques,
hein ? Absolument. Donc nous avons, avec cet indicateur, utilisant les mathématiques, les géosciences et une capacité à explorer un territoire pour identifier avec ces indicateurs où cet indicateur est très bas, ce qui signifie qu'en fait, il y a très peu d'accès aux services. Mmh. Les croiser également par rapport au prix du loyer, au prix des mètres carrés, au prix des services et au coût du temps, ce qu'on appelle ça les isochrones, c'est-à-dire mesurer les distances. Et ça nous permet de coloriser des cartes pour trouver où est-ce qu'on a le meilleur équilibre. Et là où il y a un fort déséquilibre, ce sont les lieux dans lesquels la politique publique doit s'appliquer pour justement aller vers un meilleur équilibre.
Donc tout ça, c'est des mathématiques, hein, c'est de la modélisation.
Hein. Absolument.
Ce sont des modèles qui sont utilisés justement pour pouvoir essayer en tout cas de changer la ville. Alors évidemment, autour de ce concept, eh bien, il y a des critiques, des controverses, des peurs, mais aussi l'adaptabilité à des contextes très différents dans le monde. On va en parler dans un instant, Carlos Moreno, et puis bien sûr les messages et vos questions sur la page de La Terre au Carré. Autour de cette ville du quart d'heure, c'est un livre publié aux éditions Erol.
France Inter. La Terre au Carré.
C'est un quartier modèle à Nantes, sorti de terre il y a à peine 8 ans et encore en chantier. Au beau milieu d'une friche industrielle. Vélos, trottinettes et piétons y sont rois. La voiture doit rester à l'entrée, pas vraiment bienvenue.
Bonjour.
C'est pas facile de se garer hein, ici.
Eh non, c'est la ville des quarts d'heure, on peut tout faire à moins d'un quart d'heure de chez soi, mais on met plus d'un quart d'heure pour se garer.
Voilà, j'aime bien la formule. C'est un extrait de France 3 en 2021. Ben oui, quand on n'a pas de voiture, ou quand on a une voiture, c'est un peu plus la galère dans cette ville du quart d'heure, Carlos Moreno. Nantes a été une des premières villes d'ailleurs en France.
Absolument.
Paris
oui,
et Mulhouse, c'est ça ?
Je rends hommage également à Joanna Roland, qui effectivement a pris ses concepts à un bras-le-corps. Et qui
comment ça se traduit alors ? Expliquez-nous concrètement comment d'une ville comme Mulhouse ou Nantes, on fait naître des villes du quart d'heure en fait. Parce que ce n'est pas toute la ville, c'est des poche dans la ville
hein. Non, c'est une programmatique urbaine, hein, puisque c'est vraiment la mer, hein, dans les cas de Joanna Roland, dans les cas des Mulhouse, Jean Rodner, à qui j'ai rendu hommage aussi, et Michel Lutz, qui ont implémenté. C'est une programmatique municipale. Il faut savoir qu'à Paris, par exemple, quand un Hidalgo a été réélu, et au mois de juin 2020, il a fait voter et, les pactes pour la proximité.
Ouais.
Et ensuite, en décembre 2021, il a fait voter donc, la feuille de route. Donc, ce sont des feuilles de route qu'on va appliquer sur l'ensemble de la ville, justement pour que ce ne soit pas uniquement dans un quartier, ce qui est le danger. Si on ne les fait que dans un quartier, là, on va susciter un déséquilibre, parce qu'il y aura un quartier avec beaucoup de services, et pas les autres. Et là, on va gentrifier parce que ça devient beaucoup plus cher.
Donc, c'est une feuille de route sur combien de temps, à peu près ?
C'est une feuille de route sur toute une mandature. Anne Hidalgo l'a appliquée sur toute sa mandature. Il arrive à la fin, donc au mois de mars. C'est le même cas chez Joanna Roland, Michel Lutz, mais on peut aussi le dire à Olivier Gacquer, à la communauté des communes de Béthune-Bruay, Guillaume Delbar à Roubaix. Mais des toutes petites villes comme Triport-sur-Seine, 5000 habitants en Seine-et-Marne, Jean-Michel Maurer, ou Jean-Michel Perret, entre Avignon et Alès, Saint-Hilaire-des-Bredenasses. Mmh. 5000 habitants. Ça s'applique pareil, c'est les mêmes concepts et c'est ça la beauté de ces concepts. Une petite ville de 5000 habitants et de l'autre côté Mexico, 22 millions d'habitants. Le concept il s'applique dans la totalité du territoire.
Carlos Moreno, venons-en aux critiques, parce qu'une partie très virulente vient du complotisme, oui. Notamment après une vidéo du Forum économique mondial. Certains groupes ont prétendu que la ville du quart d'heure imposerait des limites de circulation. Comment est-ce que vous expliquez ce qui a été quand même une récupération du concept ?
Le complotisme mondial, hélas, par les réseaux sociaux, à chaque fois plus virulents, et font que dans cette espèce de bulle, d'une espèce d'entre-soi, et les scientifiques sont attaqués de manière virulente. Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier, Et j'attire l'attention sur mon très cher ami Serge Zaka, agro-climatologue qui aujourd'hui
régulièrement attaqué sur les réseaux sociaux.
Des morts. Voilà, il porte un chapeau et ça lui vaut des insultes. Mais ce sont les mêmes qui disent que les changements climatiques n'existent pas, que le Covid est une arme biologique, que les vaccins c'était pour injecter une puce 3D, que les cartes d'identité numérique c'est pour contrôler la population, que les cartes de crédit c'est pour qu'on n'ait pas d'argent liquide sur soi. Bref, on vit dans un monde, hélas, dans lequel les anti-sciences prennent les pouvoirs, ils sont élus, on le voit.
Ça a pris des ampleurs considérables. Hein. Il y a eu au Royaume-Uni les manifestations d'Oxford en 2023. Certains manifestants ont comparé les zones de circulation à des ghettos.
Oui, oui, on m'a même mis comme les nouveaux Hitler, Pol Pot et Staline, les trois réunis. Hein. Donc, ma tête a été mise sur des affiches. Jordan Peterson, que certains connaissent au Canada, à Edmonton, a fait une espèce de fatwa contre moi. J'étais menacé de mort. J'étais sous protection policière à plusieurs reprises. Mais si on prend le cas d'Oxford, par exemple, ces complotismes qui se déroulent dans les réseaux sociaux, j'ai quitté X au Twitter, je l'ai quitté parce que c'était d'une violence extrême. Mais quand on va dans la vraie vie, Mathieu, quand on prend le cas de l'Angleterre, il y a eu des élections municipales après ces manifestations. Quel était le score de ces mouvements ? Inférieur à 3%. Quel était le score à Oxford, à Manchester, dans les différentes villes, les partis, soit les partis travaillistes, soit les partis verts ou les démocrates, ont gagné les élections. Et Londres, ça dit Cannes, dont la veille encore des élections, j'ai recevé des tracts qui m'insultaient à Londres, en disant, parce que c'est les LTN, les Low Traffic Neighborhood, c'est-à-dire la réduction du trafic automobile dans les villes. Donc j'étais assimilé comme celui qui était à l'origine en tant que dictateur. N'empêche que Sadiq Khan a été réélu pour la troisième fois et que tout va bien.
Alors, il n'y a pas que des attaques complotistes, il y a aussi des critiques venant du monde de l'université.
Oui,
l'une des plus fortes concerne le risque de gentrification, justement. Oui, ce que vous critiquez vous-même, d'ailleurs. Oui. Comment vous y répondez, alors, ce risque que la proximité, finalement, engendre aussi une augmentation du prix?
Oui, bien sûr, c'est une critique que j'ai reçue avec des collègues avec qui, là, universitaires, scientifiques, avec qui nous discutons avec beaucoup de hauteur. Ces collègues ont raison si ce concept est laissé aux mains du privé. C'est le cas, on le voit souvent dans les pays en Amérique latine, des condominiums. C'est-à-dire qu'on construit un quartier fermé et dans lequel on dit, dans ces condominiums, on va mettre dedans une piscine, une école, un petit magasin, des salles de sport. Hein, et ils disent, c'est les condominiums de la ville des quarts d'heure. Ça, c'est inacceptable.
Pourquoi ?
Parce que c'est des ghettos pour des riches. C'est des choses privées. C'est-à-dire, c'est un business qui est fait par des constructeurs pour satisfaire, en général, une classe supérieure qui, avec de l'argent, va vivre dans l'entre-soi. Donc, on ne peut pas laisser les clés de ces concepts au secteur privé pour faire des beaux quartiers dans lesquels les gens viennent vivre entre eux. Je réponds à mes collègues, et ils le savent, que nous nous battons pour que ça soit une politique publique, pour que ça soit des maires, des présidents des régions, des présidents des métropoles, voire au niveau des pays, pour dessiner une charte publique de l'investissement en vue de rééquilibrer les services à l'échelle de toute la ville, de tout le territoire, de toute la métropole ou de toute la région.
Et d'ailleurs, il n'y a pas de brevetage sur votre concept, hein, c'est ça ?
Je n'ai pas souhaité aucun brevet, aucun copyright, aucune enveloppe solo, aucune propriété industrielle, rien. Je dis, si ce concept a du succès, c'est parce qu'il porte en lui quelque chose de puissant et de fort. Et par contre, nous avons créé une organisation mondiale, une ONG, l'Observateur mondial des proximités durables, avec les Nations Unies et l'Organisation mondiale des maires, CGLU, pour qu'on régule par la science et les biens communs.
Combien de villes dans le monde, très rapidement, Carlos Moreno ?
Aujourd'hui, on en a certainement un bon millier de villes, oui.
Allez, on passe aux questions des auditeurs et auditrices. Jean-Charles vous demande si l'organisation de la ville de Chandigarh en Inde, en carré, n'est pas une ville du quart d'heure, justement.
Très bonne question, Jean-Charles. Chandigarh, comme tout le monde le sait, peut-être pas.
Non, pas tout le monde.
Est très lié à Le Corbusier, donc à Le Corbusier dont ouais. on parlait au départ. Et donc, il faut dire que Chandigarh, quand Le Corbusier l'avait planifié, parce que c'est une ville planifiée, effectivement, il était dans une démarche des proximités. C'est pour ça que je disais à Mathieu Vidard au départ, il ne faut pas diaboliser Le Corbusier. Mais vous avez tout près de nous, Saint-Dié des Vosges, sa reconstruction. Le Corbusier, il la voulait en proximité aussi. Hein. Voilà. Après, et c'est la zonification qui, effectivement, a fait qu'on ne soit pas vraiment au rendez-vous de l'histoire.
Victoria nous demande, vous demande, quid de la ville du quart d'heure avec la disparition de certains services publics dans de nombreuses villes de France ? Est-ce que ça peut tenir ou pas encore ?
Excellente question qui me permet d'insister. Je disais que ça doit être une question de services des puissances publiques. Les services publics sont au cœur. Et on doit se battre à tous les niveaux, que ce soit l'État, la région, les départements, les métropoles et les villes, pour que les services publics ils soient partout. Moi, je me suis réjoui quand notre Premier ministre nouveau, Sébastien Lecornu, a dit « Je vais faire que le territoire ait accès aux services médicaux en moins de 20 minutes, je crois. En moins d'une demi-heure, il a dit.
Mmh. » Voilà. On attend de voir, hein.
Là, on est au cœur de la question. Mmh. Carole Delga, quand elle a fait sa campagne aux élections régionales, on en avait discuté à l'époque dans un événement qui s'appelle Université d'été des territoires, et elle a fait sa campagne en disant « En Occitanie, les services médicaux seront à moins de 20 minutes ». Et elle l'a fait, elle a créé un GIP, des santé et proximité.
Enfin, elle a aussi voté pour l'autoroute A69, qui n'est pas forcément un exemple de... De chantier au cœur de la crise climatique.
Je vous l'accorde, hein. Mathieu. C'est pour ça que là, on doit examiner les décisions prises, les unes et les autres, pour savoir comment on évolue. Mais je crois savoir que c'est un chantier peut-être qu'il va être gelé. En tout cas, oui. Et les services publics sont essentiels. Et il faut se battre pour.
Gérard nous dit, pourrait-on associer le concept de ville du quart d'heure avec celui de ville à hauteur d'enfant qui se veut propice au jeu et au déplacement des plus jeunes ?
Oui, absolument. Je l'ai dit en de multiples occasions, y compris au Congrès mondial des villes pour enfants. Et vous avez à Paris, ce qui est devenu aujourd'hui un exemple mondial, vous avez les rues des écoles, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de voitures qui passent devant les écoles, ce sont maintenant des mini-parcs. Mmh. C'est un exemple très concret d'une transformation de ville à hauteur d'enfants.
Philippe de Bruxelles, l'accessibilité, ok, mais à quel prix ? J'habite dans le centre de Bruxelles. Effectivement, il y a des commerces à proximité, mais les petits commerçants ont été remplacés par une chaîne de magasins, de petites supérettes qui fleurissent comme des champignons, qui proposent des produits standards, plutôt de basse qualité, quand les artisans qui survivent sont obligés de proposer des prix élevés, donc difficiles d'accès pour le commun des personnes. Et je ne vous parle pas des loyers, dit-il, pour terminer très vite.
Oui, Philippe, je me bats, on a écouté tout à l'heure Philippe Claus, le maire de Bruxelles, concernant la proximité. Et c'est pour ça que nous devons aussi avoir des politiques des loyers pour installer les commerçants à bas prix au niveau du mètre carré, afin d'avoir des prix concurrentiels.
Merci Carlos Moreno d'être venu aujourd'hui dans la Terre au Carré pour nous parler de votre concept La ville du quart d'heure, une solution pour préserver notre temps et notre planète. C'est aux éditions Erol.